Forme.
RFI, bienvenue pour un nouveau journal. Il est minuit en temps universel, une heure ici à Paris.
Mathis Limano.
En Syrie, le nouveau Premier ministre s'engage au respect de toutes les communautés et appelle les réfugiés syriens exilés à rentrer au pays. Trois jours après la chute de Bachar el-Assad, son parti politique annonce suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre. Les combats se poursuivent au nord entre forces pro-turques et pro-kurdes, tandis que dans le sud, l'armée israélienne occupe toujours des territoires au-delà de la zone tampon, le sud du pays. On s'y rend juste après les titres, car depuis plus de 10 ans, l'électricité fait cruellement défaut aux habitants. Et puis cette nouvelle aide américaine pour l'Ukraine, 20 milliards de dollars de prêts, mais vous l'entendrez, ce n'est pas Kiev qui remboursera. Nouvelle frappe israélienne en Syrie. Les sites militaires de la ville côtière de Latakié ont été visés il y a quelques heures, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parallèlement, Israël occupe toujours des territoires au-delà de la zone tampon du Golan dans le sud de la Syrie. Le sud où les habitants sont confrontés à un tout autre problème qui dure depuis de longues années, le manque d'électricité, à tel point que dès que le soleil se couche, toute la région est fréquemment plongée dans le noir. Depuis 14 ans, les habitants n'ont plus droit aux fournitures publiques d'électricité. Ils dépendent donc de l'énergie solaire qu'ils collectent le jour pour recharger leurs batteries. Reportage à Dera de Mohamed Erami.
Faire fonctionner son frigo, faire tourner une machine ou simplement recharger son téléphone est devenu un combat de tous les jours pour Abou Mahan, un des habitants de la localité de Nawa. Avec moins d'une demi-heure d'électricité par jour depuis près de 14 ans, ce père de famille a dû s'adapter.
Seuls ceux qui ont de l'argent dans le sud peuvent acheter de l'énergie solaire et obtenir de l'électricité. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'électricité. Ils ne peuvent pas recharger les batteries, allumer la télévision ou éclairer leur maison. Les centrales de production sont inactives à cause des bombardements et du vol de câbles.
Le problème ne s'arrête pas à l'électricité. Plus de 2 millions de Syriens du Sud souffrent depuis de nombreuses années d'une pénurie d'eau, ce qui les oblige à acheter cette denrée à des revendeurs qui les puisent grâce à des panneaux solaires et un moteur électrique eux-mêmes dépendant du soleil. Problème, l'eau est souvent impropre à la consommation, comme l'explique Samira Khader, femme au foyer.
Nous achetons de l'eau dans des puits privés pour assurer nos besoins en matière de tâches ménagères et de nettoyage, et nous ne gardons que quelques litres pour boire ou pour préparer le thé. Et souvent, nous restons des semaines sans eau, ce qui accumule la saleté, les vêtements sales, soit parce qu'elle n'est pas disponible, ou bien parce que nous n'avons pas l'argent pour acheter de l'eau.
La guerre menée par l'ex-régime de Bachar al-Assad à partir de 2013 contre l'armée libre syrienne qui tient la région est la cause principale de l'absence d'eau et d'électricité de la plus grande ville du sud syrien. Mohamed Erami, Dera, RFI.
Voilà les conditions de subsistance des habitants de Dera et partout à travers le pays. Les Syriens tiraillés entre leur liberté retrouvée et un futur plus qu'incertain. Depuis Damas, le nouveau Premier ministre s'est voulu rassurant. Mohamed al-Bachir a promis que toutes les communautés et confessions seront respectées dans la Syrie post-Assad. Cet appel lancé aussi aux Syriens exilés à l'étranger. Ils sont 6 millions à avoir quitté le pays depuis le début de la guerre civile. Revenez, nous devons reconstruire, renaître et nous avons besoin de l'aide de tous. Fin de citation. Par ailleurs, le parti Baas, le parti de la famille Assad, au pouvoir pendant plus de 50 ans, annonce suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre. Le parti va aussi remettre tous ses équipements, véhicules et armes au ministère de l'Intérieur, a précisé son secrétaire général. Enfin, cette visite, la 12e et sûrement la dernière au Moyen-Orient pour Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain est en Jordanie avant de se rendre en Turquie au programme des discussions. La situation, bien sûr, en Syrie, alors que la Turquie continue de bombarder des positions kurdes dans le nord du pays. L'administration américaine qui s'empresse d'aider l'Ukraine avant la prise de pouvoir de Donald Trump. Nouvelle aide de 20 milliards de dollars sous forme de prêt pour Kiev, un prêt qui sera remboursé grâce aux intérêts des avoirs russes gelés. Agnieszka Kumor, cette somme fait partie d'une aide plus conséquente.
20 milliards de dollars, c'est la part des États-Unis sur un total de 50 milliards promis par le G7. Le prêt sera remboursé via les intérêts générés par les avoirs russes gelés par les sanctions. L'idée d'utiliser ces fonds pour garantir le prêt a été scellée par un accord signé en octobre. C'est la Banque mondiale qui se chargera de transférer ces sommes à l'Ukraine. En débloquant ce prêt, l'administration Biden veut accélérer son aide à l'Ukraine avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président élu a en effet décidé de réduire l'aide américaine à Kiev. Mais pour la secrétaire au Trésor sortante, Janet Yellen, il s'agit aussi d'envoyer un message à Vladimir Poutine qui compte, selon la responsable, sur la fatigue des Occidentaux. Quant aux Européens, ils craignent un désengagement des Américains ou des pressions pour un accord avec Moscou au détriment de Kiev.
Et cette réaction qui nous vient du Kremlin, l'aide à l'Ukraine financée par les intérêts des avoirs russes. C'est du vol, dénonce la diplomatie russe qui parle d'élan russophobe de Joe Biden à quelques semaines de sa fin de mandat. Il y aura des représailles, promet Moscou. Les deux belligérants qui ont bien noté la date du 20 janvier dans leurs agendas, date d'investiture de Donald Trump, lui qui promet un plan pour la paix dont les détails ne sont toujours pas connus. On apprend également par la chaîne CBS News que le président chinois Xi Jinping est convié à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le président élu, qui va être désigné personnalité de l'année par le Time. Le célèbre magazine américain décerne ce titre depuis près d'un siècle. Pour célébrer cette distinction, Donald Trump sonnera ce jeudi la cloche à l'ouverture de la bourse de New York. Des informations rapportées par nos confrères de Politico. Vous êtes bien sur RFI, 1h06 à Paris, 3h06 à Riyad, l'Arabie Saoudite, où la COP16 désertification s'achève vendredi. Et à l'occasion de cette conférence, le Royaume a annoncé la création d'un partenariat mondial avec cet objectif, aider les pays les plus pauvres à faire face à la sécheresse. Un fonds de 12 milliards de dollars est consacré à ce partenariat et avec cette annonce, l'Arabie Saoudite espère inciter les pays occidentaux et les institutions financières à se joindre à ce partenariat. Osama Ibrahim Fakea, vice-ministre de l'Environnement saoudien.
La Banque mondiale et d'autres institutions disent qu'à chaque sécheresse, nous investissons dans des plans d'urgence. Or, il vaut mieux investir un dollar dans la prévention plutôt que 5 à 10 dollars pour faire face à la sécheresse. Et c'est en cela que consiste le partenariat mondial de Riyad. Le partenariat mondial de Riyad vise à renforcer la résilience, ce qui signifie se préparer à l'arrivée de la sécheresse au lieu de réagir une fois qu'elle a frappé. Et cette vision de l'aide fait partie d'un plan global, d'un plan national pour ces pays. Comment peut-on se préparer à l'arrivée de la sécheresse ? En Arabie Saoudite, en tant qu'hôte de cette COP16, nous sommes fiers de lancer cette initiative. Nous appelons les pays développés, les institutions financières, le secteur privé, les organisations internationales, les ONG, à rejoindre ce partenariat parce qu'ensemble, nous pouvons cumuler et amplifier les efforts pour faire face à la sécheresse.
Le vice-ministre de l'Environnement saoudien au micro d'Igor Strauss, l'Arabie Saoudite, qui accueillera la Coupe du Monde de foot 2034. L'annonce a été faite aujourd'hui, ce mercredi, par la FIFA et suscite la colère d'Amnesty International, notamment avec ses explications de Cédric Oliveira.
Il n'y a eu aucun suspense puisqu'il n'y avait qu'un dossier de candidature pour chaque édition. Les 211 votants de la FIFA ont donc entériné le projet. En 2030, les 48 nations qualifiées se disputeront la Coupe du Monde dans 3 pays, en Espagne, au Portugal et au Maroc. Sans oublier une incursion en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour les 3 rencontres inaugurales. Un geste symbolique pour célébrer les 100 ans de la première Coupe du Monde, mais aussi un habile tour de passe-passe de la part de la FIFA en invoquant le principe de rotation continentale. L'édition 2034 revenait donc forcément à l'Asie ou à l'Océanie. Et une fois le retrait de l'Indonésie et de l'Australie, le tapis rouge était dressé pour l'Arabie Saoudite, lancée dans une politique de soft power à l'image du Qatar. Le régime va devoir construire plusieurs enceintes et décaler sans doute la compétition en hiver, comme lors du Mondial 2022, pour éviter de jouer sous des températures caniculaires. Bref, un défi logistique et environnemental colossal. Plusieurs groupes de supporters et des ONG craignent également que les droits humains ne soient pas respectés dans le pays, notamment au sujet sujet de l'exploitation des travailleurs migrants qui vont construire les stades.
Pour rappel, la prochaine Coupe du Monde aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et le foot, eh bien, c'est aussi la Ligue des Champions. Suite et fin de la sixième journée, ce mercredi soir, Manchester City continue de s'enfoncer. Défaite 2-0 à Turin, à Londres. Monaco s'incline logiquement face à Arsenal 3-0 et glisse parmi les barragistes. Le FC Barcelone a dû, lui, s'employer pour venir à bout de Dortmund. Victoire 3-2. Barcelone pointe son nez à la deuxième place du classement derrière Liverpool. On va en Italie. L'AC Milan s'impose sur le fil 2-1 face à l'étoile rouge Belgrade. Et puis, plus tôt dans la soirée, Lille a eu chaud mais prend les 3 points à domicile face au Sturm Graz. Les Lillois qui grimpent à la 8e place. Pour rappel, le top 8 est synonyme de qualification directe en 8e de finale. RFI, il est 1h10 à Paris.